À Rencontre spirituelle, aujourd'hui sera question Savonarole. C'est un cas bien difficile que celui de ce Dominicain Jérôme Savonarole, Dominicain réformateur, grand prédicateur, élu en 1491 prieur du fameux couvent de San Marco à Florence, le fameux couvent qui a été décoré par Frangelico, c'est admirable. Et il a été condamné en 1498. Je vous expliquerai un peu ça. Et il a été, par l'Inquisition, brûlé vif. Mais, assez rapidement, on a commencé à le réhabiliter. Et actuellement, depuis à peine quelques années, on songe sérieusement, je vous assure, à le béatifier. C'est une situation absolument étonnante, pour ainsi dire unique dans l'histoire, celle de ce moine dont le futur cardinal Charles Journet a publié chez Desclée de Brouwer il y a bien des années, c'est en 1961, voyez-vous, il y a déjà près de 40 ans, dans la collection magnifique Présence chrétienne, il avait publié « Dernière méditation de Savonarole ». Et il avait dédié son livre, ce futur cardinal Journet, remarquable cardinal, hein, comme vous savez, dominicain, à la grande mémoire de Fra Girolamo. Girolamo, c'est le nom italien de Jérôme Savonarole, donc à la grande mémoire de Fra Girolamo, cher à Saint-Philippe Neri, qui aimait beaucoup Savonarole, et à Sainte-Catherine de Ricci, qui vénérait Savonarole. Jérôme Savonarole est né à Ferrare. Ferrare, c'est juste au nord de Bologne. C'est dans le nord de l'Italie et au nord de la fameuse ville de Bologne, que j'espère plusieurs d'entre vous ont vu. C'est une ville curieuse, remplie de tours immenses, très très hautes, qui appartenaient à des familles qui se battaient à coups de tours, si on peut dire, savoir qui avait la tour la plus haute. Il en reste beaucoup. Il est né un 21 septembre 1452. 21 septembre 1452. Il est mort, Jérôme Savonarole, comme je vous ai dit, brûlé à Florence, le 23 mai 1498, il y a 500 ans donc, ou presque, ou plus. Il n'entre dans l'ordre de Saint-Dominique qu'à l'âge de 23 ans, ce qui était surprenant à l'époque. On y entrait facilement 18 ans, 16 ans. Les temps ont bien changé. Et 10 ans plus tard, en 1484, après son entrée donc, il est déjà remarqué comme prédicateur, grand prédicateur à Florence. Son auteur favori, Saint-Thomas d'Aquin, dominicain comme lui. Persuadé qu'il a reçu de Dieu le don de la prophétie, comme on en voit aujourd'hui chez des gens de tendance pentecôtiste ou dans certains groupements spirituels ou religieux, il est persuadé d'avoir reçu de Dieu le don de la prophétie. Il annonce à Sienne, autre très jolie ville qui n'est pas très loin, en 1484 et 1485, il annonce la prochaine punition des vices de l'Église romaine. Pourquoi s'attaque-t-il à l'Église catholique, lui qui est catholique? C'est une époque tragique. C'est une époque où l'Église a beaucoup de choses à se reprocher. Et c'est cette époque qui va susciter une réforme qui va se faire en dehors de l'Église. On le sait, n'est-ce pas, avec Jean Calvin, avec Luther, avec d'autres protestants, et ce sera la brisure et l'éparpillement des chrétiens dans différents mouvements de réforme. Ce sont d'anciens catholiques qui veulent trouver le Christ plus collé à l'Évangile et éloigné des horreurs que lui montre malheureusement l'Église catholique à cette époque-là. En 1491, donc, il est nommé prieur de Saint-Marc de Florence, comme je vous ai dit, et l'on peut dire qu'il gouverne dès lors, pour ainsi dire, la ville de Florence au complet. Son pouvoir est tel. Florence est à ses pieds, puis à la suite de ses sermons, il y a des femmes qui renoncent à leurs bijoux. Car c'est une prédication sévère. Évangélique. Les débauchés renoncent à leurs sorties nocturnes. Et même, de nombreux artistes, car il y en a de très grands, renoncent à peindre des tableaux qu'on considérerait comme indécents. Exemple Botticelli et Lorenzo di Credi adoptent ses idées sur l'art. Le fameux Botticelli, oui. Comme le père ou le frère Jérôme Savonarole sait prédire quelques événements importants, tels que la fin du règne des Médicis, la descente de Charles VIII en Italie en 1494, puis le rétablissement du gouvernement populaire, Florence ne croit plus qu'en sa parole. Ah, il est devenu le prophète. Et Jésus-Christ est proclamé roi de Florence. Roi de Florence. Pour donner une idée de la prédication de Savonarole, voici les premières lignes du sermon Florentia Deo, prononcé le 25 octobre 1495. Je vous en lis un passage. C'est donc le père Jérôme Savonarole qui prêche. 1495. Ce matin, je ne vous ferai pas d'autres exhortations que celle de la glorieuse Vierge Marie. Florence, chérie de Dieu et de mon Fils le Seigneur Jésus-Christ et de moi, tiens la foi, persévère dans la prière, fortifie ta patience, car ainsi tu auras auprès de Dieu, le salut éternel et auprès des hommes, la gloire. Quand il prononce ces paroles qui viennent de la bouche prétendument de Marie, ce qui n'est pas mauvais dans un sens, c'est en latin qu'il prononce ça. La Vierge Marie veut capter ton attention, ajoute-t-il, quand elle te dit « Florence, chérie de Dieu et de mon Fils Jésus-Christ, est tant aimée de moi. » C'est comme si elle te disait, il parle aux gens, aux Florentins évidemment, « Écoute, car je veux te dire de grandes choses, non pas humaines, non pas terrestres, mais célestes, éternelles, stables, et moi, Florence, ce matin, je veux te montrer que tu es chérie de Dieu, et que si tu fais toutes ces choses, tu n'as pas à avoir peur. » Florence, laissons aujourd'hui les autres provinces du monde et venons-en en Italie. De toutes les cités de l'Italie, Florence est la plus aimée. Je ne dis pas que les autres manquent d'hommes qui soient aimés de Dieu. Pourtant, celle-ci les dépasse toutes en mérite et en nombre. Mais remarque qu'il y a grande différence entre l'amour de Dieu et celui des hommes. L'homme est composé d'âme et de corps. Son amour survient en lui comme un accident et reste souvent sans effet. Il ne peut ou ne sait aider ce qu'il aime. Il est empêché. Qui croit faire du bien fait parfois le contraire. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Et c'est très beau ce qu'il dit. Il est l'amour même. Et son amour est lui-même. Plus il aime, et meilleures deviennent les choses. Vous comprenez pourquoi les gens appréciaient ces sermons à l'emporte-pièce, magnifiquement structurés, qui dénotaient à la fois une grande culture puis une grande foi en l'amour de Dieu. Il ajoute, plus Dieu aime et meilleures deviennent les choses. Voyons un peu si Florence est plus aimée que toutes les autres cités d'Italie. Comparez donc Florence, ingrate, de quoi as-tu peur? Le signe de la plus grande amitié n'est-il pas de révéler ses secrets? Il t'a révélé les siens, ô Florence. D'abord, quant à la foi. Les raisons qu'on t'en a données sont si efficaces et si nombreuses que le doute n'est pas possible. Je ne me lèverai pas pour voir ressusciter un mort, tant sont claires les choses de la foi. Ensuite, il t'a révélé ce qu'il voulait faire en Italie. D'autres aussi, sans doute, te l'ont dit. Mais tu as entendu une voix vivante t'exposer l'ordre des Écritures. Tu as reçu la lumière intérieure, toi qui crois que la foi est un don de Dieu et que personne ne peut croire sinon les amis de Dieu. En plus de tout cela, il t'a montré ce qui constitue essentiellement le bien-vivre, à savoir quoi? La simplicité chrétienne, c'est ça le bien-vivre, le goût intérieur de Dieu, la victoire sur ses appétits et ses passions. Et non pas faire des chapelles, des calices, des chasubles, non. Et jamais tu n'as vu tant de gens changer et se convertir à une droite vie. Oui, les vierges s'en vont voilées, les veuves sont honnêtes, les femmes mariées sont chastes avec leurs maris, et les petits-enfants redressés. Toute la cité est transformée. Ils ont disparu, les jeux de hasard, les sodomies, les blasphèmes. Mais tu as des tribulations. Que te répond Dieu? Ceux que j'aime, dit Dieu, je les corrige et je les châtie. Il n'y a pas de ville qui ait tant d'adversaires que n'en a Florence. C'est bon signe. Quand on ne fait de mal à personne, d'être persécuté, c'est normal. Florence, chérie de Jésus-Christ, qui est mort pour toi sur la croix et qui a souffert pour toi tant de peines, Florence, chérie de la Vierge Marie, ne crains pas. Tu seras délivré par elle de tous tes dangers, mais non par tes enfants. Tu sais assez tout le mal qui se faisait en toi, tes sodomies, tes luxures, tes usures et tes avarices. Pourquoi donc Dieu t'a-t-il délivré? Parce qu'il l'a voulu. Oh, ma Florence, avant tout, tiens la foi de ton Seigneur, capitaine Jésus-Christ. Voilà le genre de sermon qui faisait courir les gens. Et Savonarole veut que Florence soit un foyer de lumière et de sainteté, qu'elle serve d'exemple à cette Rome papale déchue, à la Rome d'Alexandre VI, Alexandre Borgia, qui l'attaque avec une vigueur inouïe, dit-on. Alexandre VI essaie de se le rendre favorable, d'abord en lui offrant de devenir cardinal, puis en le citant à Rome, finalement en procès en 1495. Mais les faveurs d'une part, les menaces d'autre part, trouvent le moine Jérôme Savonarole, dominicain, inébranlable. Et le pape Alexandre Borgia finit par l'excommunier en 1497 avec défense de prêcher. Et Savonarole n'obéit pas. Il répond à la censure papale par une épistola terrible en 1497. Il y va un peu fort, hein? Et nombre de ses partisans finissent par l'abandonner. La retraite de Charles VIII qui était descendu en Italie, le retour des Médicis au pouvoir, la campagne des franciscains contre lui, lui font perdre des plumes, il avait prédit des choses contraires, puis voilà. Alexandre VI, le pape, menace alors la République et la Seigneurie de lancer l'interdit sur Florence si Savonarole n'arrête pas ses prédications séditieuses et la Seigneurie lui intime le silence. Et le 18 mars 1498, Savonarole, prieur de Saint-Marc, prêche son dernier sermon où il en appelle au Christ, à son évêque, à son pape, contre ceux qui usurpent l'autorité de Dieu et qui n'ont qu'une puissance infernale. Alors, Jérôme Savonarole écrit à plusieurs rois chrétiens d'Europe, évidemment, pour leur demander la réunion d'un concile. Un concile destiné à réformer l'Église et à juger le pape Alexandre VI Borgia. La lettre adressée au roi Charles VIII est interceptée. Elle est remise à Alexandre VI lui-même. Qui fulmine une nouvelle censure contre le moine révolté que Jérôme Savonarole. Alors les habitants de Florence abandonnent leur ancienne idole. Ils l'aimaient beaucoup, ce dominicain, et ça devient fini. Les franciscains, d'ailleurs, en profitent pour exciter le peuple contre Savonarole. Après une épreuve ridicule du feu, il faut que les deux personnes contraires s'avancent vers le feu. Celui qui n'est pas brûlé serait béni de Dieu. C'est ridicule. Et c'est heureusement empêché par la pluie, mais une averse. La populace, furieuse de sa déception, se ruent sur le couvent de Saint-Marc. Ils en arrachent le père Savonarole. Et on le remet à un tribunal extraordinaire de l'Inquisition. Et il a la joie de le voir brûler sur la place du Palazzo Vecchio à Florence. La foule est étrange, abominable à cette époque, à 100 ans. C'était le 23 mai 1498. Savonarole, malgré ses erreurs et son mysticisme assez exalté, demeure quand même un des grands réformateurs du 15e siècle, avant la réforme protestante, avant les schismes, les séparations. C'est un martyr, aux yeux de beaucoup, de l'apostolat chrétien. Et Rome l'a si bien compris d'ailleurs, que très rapidement, le pape Benoît XIV, oh c'est pas n'importe qui le pape Benoît XIV, le jugeait digne d'être canonisé. Qui est Benoît XIV? Mais il est mort en 1758. Il y a donc bien longtemps. Près de 250 ans. C'est le pape le plus cultivé de son siècle. On peut signaler en passant qu'il a répandu, lui, la dévotion au chemin de croix. Ça date de son époque. Le pape Benoît XIV. Qui jugeait Jérôme Savonarole digne d'être canonisé. Comment est-il mort? Bien, le 19 mai de cette année tragique, quelques jours avant sa mort, sont arrivés les commissaires romains. Savonarole est renvoyé à la torture. On l'a torturé. C'est une horreur. Une horreur. Je le raconte parce que ça nous est souvent dit, mais j'ai des choses à vous ajouter. Le mercredi 23 mai, donc 1498, en la veille de l'Ascension, il est conduit avec les frères Sylvestre et Dominique, qui devaient mourir avec lui, à la chapelle du palais de la Seigneurie pour assister une dernière fois à la Sainte Messe. Au moment de la communion, il sollicite la faveur de recevoir comme prêtre la Sainte Hostie dans ses propres mains, comme on communie aujourd'hui. Et il tient l'Hostie devant ses yeux et il dit ce qui suit. Parle à Jésus. J'ai le texte qui nous est fourni par le futur cardinal Charles Journel. Aujourd'hui. Seigneur, je sais que vous êtes ce vrai Dieu qui a créé le monde et la nature humaine, et je sais que vous êtes cette trinité parfaite, indivisible et inséparable, distincte en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je sais que vous êtes ce Verbe éternel, qui est descendu du ciel sur la terre dans le sein de la Vierge Marie, que vous êtes monté sur le bois de la croix afin de répandre votre précieux sang pour nous, misérables pécheurs. Je vous supplie, ô mon consolateur, qu'un sang si précieux n'ait pas été répandu pour moi en vain, qu'il soit la rémission de tous mes péchés, dont je vous demande pardon, depuis le jour où j'ai reçu l'eau du Saint-Baptême jusqu'à maintenant. Et pour lesquels, Seigneur, je vous dis ma culpe. Je demande pardon, quoi. Je demande pardon de mes péchés. Je vous dis ma culpe, ma culpabilité, si vous voulez. Je vous demande aussi pardon de toutes mes offenses contre cette cité de Florence et contre ce peuple, les Florentins, en matière spirituelle ou temporelle, et encore de toutes les erreurs que j'ai pu commettre sans le savoir. Et humblement, à toutes les personnes qui sont ici présentes, je demande pardon. Qu'elles veuillent bien prier Dieu pour moi, afin qu'il me donne la force au dernier moment, et que l'ennemi ne l'emporte pas sur moi. Que votre amour vous fasse violence, vous inclinant à triompher de nos péchés par le pardon, et à combler notre désir en nous rassasiant de la vision de votre face. Or, un peu après, quand on lui a arraché brutalement sa robe dominicaine, il demande de la tenir une dernière fois dans ses mains et dit, écoutez, c'est beau, ô saint habit, vous savez, c'est ce beau costume des dominicains, je le dis pour les jeunes qui n'ont jamais vu de dominicain en costume, c'est une belle robe blanche, magnifique. avec le scapulaire, le capuchon et un manteau noir. C'est magnifique. Ô saint habit, combien je t'ai désiré. Tu m'as été donné par une grâce de Dieu, et je t'ai conservé jusqu'à maintenant immaculé. Et à cette heure même, je ne voudrais pas te quitter, mais tu m'es ôté. C'est le mercredi 23 mai à 14h30 qu'il fut supplicié. Il monta sur l'échafaud en récitant symbole des apôtres. Il jeta un dernier regard, empreint d'une tristesse indicible sur la foule et sur le palais de la Seigneurie. Le bourreau lui passa le nœud coulant et le précipita dans le vide. Un peu après, son corps s'écroula dans les flammes du bûcher. Il n'a donc pas été brûlé vif, hein? Il est mort. Son cœur et son foie pendaient au dehors, ils devinrent une cible pour la racaille, qui commençait, à Florence, de relever la tête. Nous dit Schnitzer au tome 2, page 145. Quelqu'un d'autre qui en a beaucoup parlé aussi, c'est le fameux Ludwig Pasteur, hein, dans le tome 6 de l'histoire des papes depuis la fin du Moyen-Âge, au début. Vous pourrez lire ça, c'est assez long et c'est extrêmement intéressant. En somme, l'histoire de Jérôme Savonarole semble devoir réserver encore bien des surprises, hein, même aux historiens. On apprend en effet, et je vais vous parler de ça tout à l'heure, on apprend en effet à la suite d'une requête très récente adressée officiellement par l'ordre dominicain à l'évêque de Florence pour que soit introduit un procès de béatification que les célèbres et fameuses lettres au prince qu'il avait prétendument écrites, attribuées jusqu'à présent à Savonarole, seraient en réalité apocryphes et Savonarole ne serait donc pas l'auteur des accusations lancées contre le pape Alexandre VI et nous verrons ça dans quelques minutes. Je vous ai mentionné qu'il a été Jérôme Savonarole, dominicain, exécuté, brûlé, après avoir été pendu, en 1498 par l'Inquisition, mais il faut, par souci d'équité, parler deux secondes de l'Inquisition, parce qu'il y a eu des erreurs, évidemment, à l'Inquisition, mais c'en est une, justement, mais elles ont été fortement exagérées, nous dit le duc de Castries, membre de l'Académie française, dans un excellent article que j'ai ici en main. Surtout quand on parle de l'Inquisition espagnole, c'est effrayant tout ce qu'on a écrit là-dessus. C'est la seule qui a duré jusqu'au temps moderne, disons jusqu'en 1823. Mais il faisait pas grand-chose en 1800. La fâcheuse célébrité là, des tribunaux ecclésiastiques espagnols est presque entièrement due à quoi? À des ragots d'un prêtre défroqué. Ancien secrétaire général de l'Inquisition, oui, ancien secrétaire général de l'Inquisition, ce prêtre défroqué, ce personnage étrange et très méprisable se nommait Llorente, L-L-O-R-E-N-T-E, qui est né en 1656, qui est mort avec l'Inquisition en 1823. Après avoir changé de bord, défroqué, quitté l'Église, il combat les congrégations, il accapare leurs biens, un voleur. Au retour des Bourbons d'Espagne, il est condamné pour trahison et exilé. Il est réfugié à Paris. Il y est soutenu par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie l'incite à écrire une série de pamphlets contre l'Église catholique. Et des pamphlets qui ont connu une grande vogue sous la restauration du roi Louis-Philippe là. Les ouvrages de Llorente, cet ancien prêtre, défroqué, ont accrédité le total de 130 000 victimes exécutées par l'Inquisition espagnole entre 1478 et 1820, donc sur une période d'un peu plus de 300 ans, presque 350 ans. J'ai même lu dans la presse un juif qui écrivait qu'il y avait eu 5 millions de morts. Oui, un juif illustre, d'origine roumaine, qui avait fait les camps de concentration, qui a écrit des livres très importants. J'ose pas le nommer, parce que c'est pas très gentil. De nos jours, des historiens consciencieux ont réduit ce chiffre fabuleux de 130 000 victimes à celui de modéré de 4 000 maximum, Qui sont ces historiens? C'est des historiens du Centre national de la recherche scientifique à Paris et d'ailleurs. Des gens brillants, savants et sérieux. Pas nécessairement catholiques. Hein? Et encore, dans ces 4000 victimes, écoutez bien, échelonnées sur près de 4 siècles et plus, il faut comprendre non seulement les hérétiques, c'est-à-dire des gens qui avaient dérogé aux enseignements de l'Église, mais également beaucoup de criminels de droit commun. Bon, des criminels ordinaires, des brigands, des assassins, des empoisonneurs, des magiciens, des voleurs, etc. Comment ça se fait qu'on les dit que c'est l'Inquisition qui les a tués? C'est que depuis le code criminel édicté par Charles Quint, 1532, tous les délinquants espagnols étaient déférés à l'Inquisition. Imaginez, ça faisait un beau rôle à l'Église, ça. Elle était devenue, l'Inquisition, la véritable justice réglée. Elle a eu à condamner souvent pour des raisons absolument non confessionnelles qui n'avaient rien à voir avec elle. On pourrait également, pour excuser les excès de l'Inquisition à l'égard des hérétiques, objecter que des méthodes analogues furent employées par les protestants. Hein. Oublions jamais que, à l'époque, ça se faisait d'un bord puis de l'autre, et c'était terrible. Il n'y avait pas que les catholiques qui étaient stupides. Stupides. C'était leur façon d'agir, et de voir, et de comprendre les choses. C'est une autre époque, c'est difficile à comprendre. On a de la misère à comprendre ça. Hein. Jean Calvin, grand réformateur à Genève, condamné à la torture et à la mort avec la même facilité que Torquemada, dont je vous ai déjà parlé, une émission d'une heure, le grand inquisiteur espagnol, parce que sous couleur de rebaptiser les anabaptistes, Zwingli, lui, les faisait noyer. J'ai déjà parlé de Zwingli, un grand réformateur en Suisse. La reine Élisabeth Ière d'Angleterre, bon, qui a hérité de la réforme anglicane d'Henri VIII, de sa fille, la reine Élisabeth Ière d'Angleterre, puis même Gustave Vasa, roi de Suède et de Danemark, ont employé contre les catholiques les méthodes que l'on reproche si justement à l'Inquisition. Je ne veux pas parler accuser les protestants. Je veux simplement faire la part des choses et qu'on puisse tourner la page en se disant il n'y a pas que les catholiques qui sont abominables et qu'ils ont été moins abominables qu'on pense. Bon, mais je suis prêt à faire la coulpe. C'est abominable d'avoir tué une seule personne. Et ne disons pas des choses exagérées. Hein. Il reste pendant équitable de ranger l'Inquisition parmi, à mon avis, les abus d'autorité, c'est évident. C'est essentiellement répréhensible de contraindre une conscience à adopter une doctrine. C'est pourquoi l'Église catholique le pense si fortement aujourd'hui. Que savez-vous que dans le code ecclésiastique actuellement en vigueur, il est écrit au canon 1351, écoutez bien, « Nul, c'est ce que l'Église enseigne aujourd'hui, bon, les temps ont passé, nul ne doit être forcé contre sa volonté d'adopter la foi catholique. » C'est la condamnation donc des excès de l'Inquisition par l'Église catholique elle-même. Je vous ai dit que Savonarole, on songe donc à le béatifier. Savonarole n'est pas l'auteur des accusations lancées contre le pape Alexandre VI, semble-t-il. Cette nouvelle, qui demande à être examinée et discutée par les historiens, témoigne des incertitudes, évidemment, qui planent encore sur l'histoire de ce frère Jérôme Savonarole et de la difficulté qu'il y a à porter un jugement sur ce religieux, sur ce prêtre éminent, extraordinaire. Est-ce que c'est un saint? Est-ce que c'est un hérétique? Excommunié comme hier? Ou bien, est-ce que c'est un martyr qu'il faut réhabiliter, comme de plus en plus de gens le voudraient? Depuis, comme je vous ai dit, le pape Benoît XIV, il y a plus de 2 siècles. Comme on le voit, les questions qui se sont de nouveau accumulées sur la personne du frère Jérôme Savonarole appelle des réponses extrêmes, qui semblent en elles-mêmes totalement irréconciliables, mais c'est la répétition d'histoire. Aujourd'hui encore, à l'idée d'un procès en béatification de Savonarole, la presse puis les spécialistes s'opposent. Ils se dressent les uns contre les autres en deux groupes absolument irréductibles. Mais comment peut-on en arriver vraiment à comprendre l'histoire, le personnage puis le drame du Jérôme Savonarole? Il y a le cardinal Ratzinger, que vous connaissez. On dit souvent que c'est le bras droit du pape Jean-Paul II. Bon. Le cardinal Ratzinger a voulu échapper à cette alternative rigide, là. Puis il a fait, il y a à peine quelques années, une déclaration dans laquelle il pose le problème en des termes assez différents parce qu'il parle de Savonarole comme d'un homme pieux, aimant l'Évangile et l'Église, mais le cardinal Ratzinger fait remarquer que sa béatification pourrait avaliser une dangereuse vision théocratique, c'est-à-dire, comme on l'a un peu chez dans l'islam, où l'État est géré par Dieu. C'est théocratique, théo qui veut dire Dieu. En somme, sa béatification au père Jérôme Savonarole pourrait être interprétée comme une légitimation des idées de ce moine sur les rapports entre la foi et la morale d'une part et le pouvoir politique, l'État, et de l'autre. Il faut vraiment la séparation de l'Église et de l'État. C'est ce qu'on a de la difficulté à comprendre dans beaucoup de pays de l'islam. Mais nous avions ça aussi autrefois, mais c'est fini ce temps-là. Essayons donc d'approfondir ce point de vue historique du préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Ratzinger, au Vatican. Les détracteurs de Savonarole s'accordent eux-mêmes pour reconnaître qu'il s'agit d'un homme pieux. Les temps étaient mauvais, je vous l'ai dit, et Ludwig von Pastor, dans sa monumentale histoire des papes dont je vous ai parlé, déclare que le Saint-Siège n'était pas, lui non plus, à l'abri de cette corruption, et il ajoute que la vie de nombreux cardinaux, évêques et prélats du temps offrait un tableau effectivement affligeant. Alors, c'est pas surprenant que Savonarole, qui était un réformateur, ait le goût de taper là-dedans. Il ajoute, Ludwig von Pastor, il ne manquait pas de prédicateurs qui, au détriment des doctrines du christianisme, doctrines sublimes dans leur simplicité, il ne manquait pas de prédicateurs donc exposaient dans les églises la sagesse païenne même, récemment découverte, là, c'est la Renaissance, et cette sagesse qui semblait briller de mille feux, ça semblait passionnant. Alors ces prédicateurs, au lieu de citer la Bible et puis les pères de l'Église, les vieux et les anciens auteurs magnifiques dont je vous parle de temps en temps, quand je vous ai parlé de Saint-Cyprien il y a quelques jours, bien, il était usage, jusque-là, de parler, de tirer les textes de la Bible et de parler de ça, presque exclusivement. Bien, ces prédicateurs se référaient maintenant, là, avec cette décadence de l'Église, ils se référaient aux philosophes, aux poètes païens, et puis ils faisaient de toute façon de la mythologie païenne, finalement, puis de la dogmatique chrétienne, tout une espèce de mélange. Et, en un certain sens, le fait que le christianisme soit ainsi intellectuellement vidé, si on peut dire, de son contenu, que le christianisme soit réduit à l'état de mythologie, a dû paraître à Jérôme Savonarole, au début, la menace principale et la plus terrible pour le sort de la foi catholique. En apparence, tout restait chrétien, mais dans la substance, là, le sens du christianisme se trouvait littéralement dissout et remplacé par autre chose dans ces prédications-là. Puis dans cette situation, ben, Savonarole, dès sa jeunesse, se montre décidé à rester fidèle à la foi chrétienne, telle qu'elle avait été transmise par la tradition catholique. Et à peine sorti donc de l'adolescence, il médite et il écrit sur quoi? Sur le mépris du monde. Et il se sent si atteint par la décadence de la chrétienté, qui était toute catholique à l'époque, qu'à peine entré au couvent, chez les Dominicains, il écrit un poème intitulé « De la ruine de l'Église ». Est-ce que ça vous rappelle l'émission de vendredi dernier que j'ai faite sur cette Église qui s'effondre, hein? Beaucoup de gens ont aimé cette émission. Je les en remercie, ça m'encourage. Ludwig Pasteur écrit le jeune dominicain, Jérôme Savonarole, tourmenté par la vue d'un tel pervertissement, cherche donc dans les prières et les pénitences un réconfort, et ainsi, diront les historiens, une foi consacrée à la prédication, son annonce chrétienne pénètre dans le cœur parce qu'il parle avec une émotion incroyable. Et si Vittorio Messori, vous connaissez Vittorio Messori, ce grand auteur et journaliste italien actuel, qui ne fait pourtant pas partie des admirateurs de Savonarole, qui observe, lui, il dit, « Dans la doctrine, comme dans la vie, Savonarole n'a jamais voulu être rien d'autre qu'un catholique rigoureux. Sa pensée était tellement orthodoxe
que ces livres ont été adoptés jusque dans les instituts pontificaux comme textes d'étude et de méditation.
Car il disait s'éloigner de l'Église romaine, c'est s'éloigner du Christ, répétait-il Savonarole dans ses prédications les plus enflammées. S'éloigner de l'Église romaine, c'est s'éloigner du Christ. Prédication qui n'était pas dirigée contre la papauté, mais seulement contre ce pape-là, Alexandre Borgia, Alexandre VI. Et d'ailleurs, la critique virulente des prêtres n'était pas une nouveauté dans l'Église, pas plus qu'elle n'était pressentie comme une menace d'hétérodoxie, là, quand ils prêchaient contre les prêtres, c'est contre les prêtres qui faisaient fausse route. Ils prêchaient pas contre tous les prêtres, évidemment. Il y a quelques années auparavant, Sainte Catherine de Sienne avait prononcé et écrit les paroles de feu, souvenez-vous, à l'adresse de divers papes et de cardinaux. Sainte Catherine de Sienne elle-même! Alors, c'était un peu dans le vent, dans le courant. Ça a engendré, d'accord, les protestants, mais à l'intérieur de l'Église, il y avait de l'autocritique et de la réforme. Et il faut reconnaître que le destinataire lui-même des invectives de Savonarole, le pape Alexandre VI Borgia, sur la misère morale duquel on a tant parlé, étant écrit, s'est montré, à ce que disent les historiens, d'une incroyable tolérance à l'égard de ceux qui mettaient le plus d'acharnement à le dénigrer. Il se savait pécheur. Savonarole y compris, d'ailleurs. Et c'est Messori qui écrit « Le pape Borgia fut étonnamment doux et patient à l'égard de ce frère dominicain qui fustigeait sa conduite scandaleuse. Il est probable, d'ailleurs, qu'il ne serait pas intervenu contre lui si Savonarole s'était cantonné dans ce domaine religieux, de faire des reproches au pape sur sa conduite morale, sans s'aventurer dans celui de la politique. Hein, il faut rendre justice aussi à Alexandre VI. Il péchait, mais il était conscient de le faire. Curieux pape. Il n'a pas érigé ses fautes en système théologique, d'ailleurs. Il ne s'est pas déchaîné contre ceux qui lui en faisaient ouvertement reproche. Et là, on retombe sur la critique que le cardinal Ratzinger a adressée à Savonarole. Une dangereuse vision théocratique. Hein, sur ce point, l'accord est presque unanime. Et je vous ai dit que l'accord est presque unanime aujourd'hui. Voici ce qu'écrit, d'ailleurs, Brandi. Il dit « Le régime proposé par Savonarole était une théocratie intolérable, à fondement démocratique. Dieu devait guider lui-même le gouvernement, imaginez. Il devait manifester sa volonté par la bouche du moine. Par la bouche du moine. » Et là, il donnait de l'importance. Hein. Krauss a, lui aussi, parlé de théocratie républicaine. Mais Ludwig Pasteur, le fameux historien qui s'est converti, d'ailleurs, un luthérien qui s'est converti au catholicisme, à force d'écrire sur les papes, s'est rendu compte que les papes étaient bien meilleurs et qu'ils n'avaient pas fait d'erreurs dogmatiques. Vraiment, ils n'avaient jamais été des hérétiques. Pasteur, donc Ludwig Pasteur, dit de Savonarole qu'il était, sans aucun doute, animé des meilleures intentions, mais il est très critique à l'égard de sa prétention. Mais appliqué, dit-il, ces idées monastiques imaginées à toutes les circonstances de la vie civile, ça ressemble beaucoup, beaucoup à l'islam. Au point que Savonarole, imaginez, condamne avec une extrême sévérité puis une extrême partialité des choses qui en elles-mêmes sont licites. Par exemple, je vous donne des exemples. Il condamne le jeu public, qui est immédiatement puni par la torture. C'est exagéré, j'espère qu'on le béatifiera pas. Il condamne les blasphémateurs, ils ont la langue perforée. Ben, j'espère qu'on recommencera pas ça, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de Québécois, avec le langage étrange que nous avons, qui auraient la langue perforée, mon Dieu. Et pour rappeler que Savonarole exige des serviteurs, imaginez un espionnage très strict de leur maître. Et il recule pas devant le fait de s'immiscer dans la liberté de la vie domestique. C'est terrible, ça. Les moyens de coercition les plus brutaux, l'espionnage et la délation doivent coopérer pour établir dans la vie de tous les citoyens une perfection si haute qu'elle ne sera jamais accessible sinon à quelques-uns. C'est ce que rapporte Ludwig Pasteur. Ludwig Pasteur emploie le mot terrorisme pour décrire ce climat social. Et l'auteur que je vous ai cité tout à l'heure, Schnitzer, a parlé, lui, de fanatisme et de terrorisme. Alors, la prétention d'imposer, comme s'il s'agissait d'une loi d'État, la sainteté de vie, comme on semble le faire dans certains pays musulmans, je le répète, cette sainteté de vie qui, selon la doctrine catholique, ne peut être qu'un don de la grâce, un don de l'Esprit-Saint. La sainteté vient de
l'union de l'âme avec la très sainte Trinité, particulièrement l'Esprit Saint. Ça doit être librement reconnu et accepté. Ça conduit de nombreux historiens à souligner la ressemblance entre le régime de Florence sous Savonarole et celui qu'avait d'ailleurs institué celui qu'on appelle le Calvin de fer, Jean Calvin, à Genève. Mais nous sommes très loin du catholicisme avec Jean Calvin, évidemment. Et passablement, à mon sens, avec Jérôme Savonarole. Voilà pourquoi les deux jugements du cardinal Ratzinger, apparemment contradictoires, semblent, à mon avis, historiquement les plus pertinents. La contradiction est à l'intérieur même de la personne de Savonarole. C'est là qu'il faut chercher. Alors on dit que tous les obstacles sur la route qui mène aux honneurs des autels, c'est-à-dire les très célèbres lettres aux princes que l'on attribuait jusqu'ici à Savonarole et qui contiennent des accusations terribles contre le pape Alexandre VI Borgia, seraient un faux sensationnel. C'est un dominicain assez âgé, le père Tito Centi, qui s'est aperçu qu'il y avait dans le texte de l'une des lettres une erreur énorme de chronologie. Et puis, il est impossible que Savonarole ait pu s'exprimer ainsi en s'adressant à Maximilien Ier d'Autriche, en le qualifiant d'empereur alors qu'il était seulement roi des Romains, ce serait vraiment presque moqueur. Et c'est impensable. Alors, on ne peut pas affirmer que le frère ait désobéi à de bons ordres, il a plutôt désobéi à de mauvaises prétentions. Et il écrit d'ailleurs admirablement dans son cachot « Malheureux que je suis, abandonné de tous, ayant offensé le ciel et la terre, où irais-je? Où me tourner? Vers qui me réfugier? Qui me prendra en pitié? Lever les yeux vers le ciel, je n'ose, car j'ai péché gravement contre lui. De refuge sur la terre, je n'en trouve pas, car je suis pour elle un scandale. Que ferais-je donc? Je désespérerai? Oh non, la miséricorde est en Dieu, la pitié est dans mon Sauveur, Dieu seul est mon refuge, il ne méprisera pas l'œuvre de ses mains, il ne repoussera pas son image. À vous donc, Dieu très doux, je viens, désolé et navré. Vous seul êtes mon espérance, vous seul mon refuge. Mais que vous dirais-je? Je n'ose lever les yeux. J'exhalerai les paroles de la douleur. J'implorerai votre miséricorde et je dirai « Ayez pitié de moi, ô Dieu, selon votre grande miséricorde. Ô Dieu qui habitez une lumière inaccessible, Dieu caché, qu'on ne peut ni voir avec des yeux de chair, ni comprendre avec une intelligence créée, ni exprimer dans la langue des hommes ou des anges. C'est vous. Ô Dieu incompréhensible que je cherche, c'est vous, ô Dieu ineffable, que j'invoque, qui que vous soyez, vous qui êtes partout. Je sais en effet que vous êtes réalité suprême, si l'on peut dire que vous êtes réalité, et non plutôt cause de toute réalité. Et même peut-on dire que vous êtes cause, ah le nom qui permette de désigner votre ineffable majesté, je ne le trouve pas. Car vous êtes votre sagesse même, votre bonté, votre puissance et votre souveraine félicité. Voici donc, ô Dieu miséricorde, voici que la misère est devant vous. C'est curieux que la messe aujourd'hui commence ainsi. Allez, dit le Seigneur de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. C'est ce qu'a voulu faire le frère Jérôme Savonarole, d'observer tous les commandements. Mais il est tombé dans des excès, dans lesquels il faut être très prudent. On ne doit pas devenir intégriste, sec, car notre religion est une religion du pardon et de l'amour. Non pas pour dire qu'il n'y a pas de péché, mais pour dire que Dieu est toute miséricorde et toute tendresse. Ici Raymond Beaugrand-Champagne. qui vous remercie d'avoir écouté cette émission sur Savonarole et qui vous suggère au besoin de téléphoner à Marc Alexandre pour avoir une copie cassette audio. Marc Alexandre, 374-3785, 374-3785 à Montréal. Je remercie Nicolas Diuskin pour la mise en onde et je vous invite à être à l'écoute ce soir à 10h pour la reprise de cette émission consacrée à un des grands hommes de notre Église, Jérôme Savonarole, homme de feu, mais homme qui est tombé dans une erreur.